Le dénominateur commun, c'est la curiosité, évidemment. C'est-à-dire que pour moi, et d'ailleurs c'est ce que j'enseigne à mes étudiants à l'AJM à Neuchâtel, où je vais tous les ans depuis 10 ans, l'Académie du journalisme et des médias, c'est que le grand reportage, ça commence en bas de chez soi. Moi, il se trouve que j'ai commencé par le pire, et dans des sociétés que je ne connaissais pas, lointaines, très différentes de celles dans lesquelles j'ai grandi, mais on peut et on doit, si on est journaliste bien sûr, avoir la même capacité d'étonnement, de curiosité, de respect vis-à-vis de toutes les sociétés et vis-à-vis de là où l'on vit également. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en suis venue, après tous ces terrains de guerre, à oser observer mon propre pays, la France.
Est-ce qu'en 2017, quand vous allez dans certaines villes de France pour investiguer, est-ce que vous vous rendez compte du malaise auquel on assiste aujourd'hui?
Oui, bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre, Dans quelle France on vit, qui est paru au moment des élections présidentielles dernières, puis ensuite en livre de poche. Mais moi, ça fait déjà quelques années avant cela que je m'étais rendu compte des malaises. Je sentais des malaises justement quand je rentrais de mes pays en guerre. Les pays en guerre, donc l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, dans lesquels j'ai beaucoup été, beaucoup évolué. Mais il y a toujours un moment où on revient. On revient, donc on revient éreinté, déprimé, cassé, au sens propre comme au sens figuré. Et on revient dans son propre pays. Et alors que la France n'est pas en guerre, je me rendais bien compte que il y avait matière à écrire en observant cette société. Et aujourd'hui, tout le monde me dit oui, tu as été une précurseur, les Gilets jaunes, etc., puisque mon livre est paru avant les Gilets jaunes. Alors, je pense, non, j'ai été en rien précurseur, j'ai simplement observé. Et je pense que c'est pour moi ça, le cœur même du métier de journaliste, ce que parfois les journalistes d'aujourd'hui oublient un petit peu de faire. C'est prendre le temps d'observer l'autre.
On parle du slow food, on parle du slow journalisme avec vous. Il faut prendre le temps, il faut observer ce que ne font plus forcément toutes vos consoeurs, tous vos confrères.
Alors pas tous, hein, il faut pas exagérer. Mais moi, c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que je pratique ce genre de journalisme. Aujourd'hui, je l'ai pratiqué dès le départ. C'est donc mon choix depuis que j'ai commencé dans le journalisme. Et que ce soit slow ou fast, finalement, peu importe ces dénominations et la façon dont on qualifie ce journalisme. Ce qui est important, c'est le travail, la rigueur, l'honnêteté dans ce que l'on observe et dans ce que l'on rapporte de ce que l'on a observé, l'absence de mise en scène, l'absence de jugement. Ça, je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, il y a trop de jugements hâtifs, il y a trop de pseudo-experts, pseudo-spécialistes. Les journalistes sont censés avoir réponse à tout. Moi, je n'ai pas réponse à tout et je ne pense pas qu'un journaliste doit avoir réponse à tout. En revanche, un journaliste doit montrer, doit illustrer la complexité du monde dans lequel on vit. Démontrer, c'est autre chose. Moi, en tant que journaliste, je n'ai pas envie de démontrer, mais j'ai plutôt envie de montrer.
En 20 ans, il s'en est passé des choses en termes de journalisme, avec l'apparition évidemment des réseaux sociaux, la montée en puissance du numérique et ce qu'on appelle les fake news. Difficile avec cette avalanche d'informations d'y voir clair pour le public. Vous-même, comment vous trouvez votre chemin pour vous faire entendre avec votre manière de voir la profession?
Non, mais moi, me faire entendre, ça n'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment le grand public comprend-il, reçoit-il les médias d'aujourd'hui et comment justement fait-il son choix? Effectivement, le grand public est souvent perdu. Les consommateurs des médias sont perdus dans le sens où il y a une avalanche d'informations, comme vous venez de le dire, qui ont l'air de toutes se ressembler. Et en fait, derrière cette apparence, il y a de l'idéologie, il y a du jugement, il y a des fake news, mais il y en a toujours eu, des fake news. C'est tout simplement qu'elles se propagent beaucoup plus vite et qu'elles peuvent prendre ou pas de l'ampleur beaucoup plus vite. En fait, les médias d'aujourd'hui et les médias sociaux sont des caisses de résonance qui parfois mettent la loupe là où elle n'aurait pas lieu d'être, finalement. Et c'est ça le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de recontextualiser, de faire en sorte que chacun reste à sa place, de raconter les à côté, raconter avec nuance et détail, plutôt que de se précipiter et d'aller tous dans le même sens, telle une meute hystérique. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est l'hystérisation des médias et le fait que tout le monde surréagit.
Les pratiques évoluent, la consommation des médias évolue, les médias sont aussi sous pression, pression financière, c'est crucial par rapport à leur indépendance, leur autonomie. On le voit en Suisse, notamment au niveau de la presse écrite, qui se restructure, qui se concentre. Est-ce que le journalisme, en tant que profession, a un avenir, sachant qu'économiquement, c'est de plus en plus délicat ?
Mais il faudra trouver d'autres modèles économiques. La nature ayant horreur du vide, ces modèles apparaîtront. Il y en a déjà qui sont en train d'apparaître.
Pour vous, c'est quoi le modèle d'avenir auquel peut-être on assiste déjà ?
Moi, je n'aime pas les modèles. J'ai construit toute ma carrière en dehors du système. Je suis sortie du système moi-même très tôt, peut-être un peu trop tôt. Enfin bon, maintenant je ne le regrette pas, mais ça n'était pas facile au début de ma carrière, il y a 20 ans, d'être en dehors du modèle. C'est-à-dire de justement ne pas avoir pour désir principal, pour but principal, de rentrer dans une rédaction. De fonctionner en dehors, presque à rebours. Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle du freelancing. En France, on dit pigiste. Travailler à la pige, ça continue aujourd'hui à ne pas être véritablement la norme. Or, pour moi, c'est cela l'indépendance suprême. C'est une liberté qui m'a coûté cher. Mais
qu'est-ce que vous entendez par là ?
Mais qui m'a coûté cher dans le sens où j'ai, au début, très mal gagné ma vie. Il fallait que je coure après les piges pour me faire payer parce que j'étais rien ni personne et que les comptabilités des journaux pour lesquels je pigeais oubliaient de me payer. Enfin, bon, tout pigiste connaît ça. Et puis, donc, son nom, sa notoriété, il faut le faire. Et les jeunes journalistes à Neuchâtel, quand je les rencontre la première fois, ils me disent « Mais comment vous avez fait pour être là où vous êtes aujourd'hui ?» Ils croient que c'est arrivé tout de suite, mais ils font ma connaissance 20 ans plus tard. Donc je suis obligée de leur raconter des choses de bon sens, qui sont simplement que moi aussi j'ai débuté. Et que moi aussi, quand j'ai débuté, ça n'était pas facile. Dans le sens où toutes les places étaient prises. Donc la place, il a fallu que je me la fasse dans le système médiatique qui était celui de l'époque. Alors certes, il n'y avait pas les médias sociaux, mais moi, mon rêve, c'était d'être correspondante à Moscou. Les places étaient très chères, il n'y en avait pas. Quand je suis arrivée à Moscou, les grands journaux français avaient leurs correspondants. Et moi, finalement, je le suis devenue correspondante parce que, je dirais même grâce à la guerre en Tchétchénie, en 1999-2000, qui a fait que j'ai pu me faire remarquer parce que j'ai écrit en tant que pigiste pour Libération et ensuite Libération m'a embauchée. Eh bien, croyez-le si vous voulez, mais à la seconde où Libération m'a embauchée, où je me rappelle très bien que j'ai signé ce contrat à durée indéterminée, que je pensais être le Graal, eh bien je n'en voulais plus. En fait, je me rendais compte que c'était finalement pas ça qui allait me rendre heureuse et que je préférais cette liberté de pouvoir choisir mes sujets, de pouvoir choisir combien de temps je passerais sur chaque sujet, de pouvoir décider où j'allais aller. Alors évidemment, c'est ce choix cornélien entre stabilité et instabilité. Mais aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas eu tort. Et aujourd'hui où justement le système médiatique a complètement changé, énormément de jeunes journalistes optent davantage pour ce qui a été mon choix il y a 20 ans. Et moi, je prône cela, c'est-à-dire je suis tout à fait en faveur d'un plus grand nombre de journalistes freelance que de journalistes dans le système. Et je crois que c'est vers cela qu'on va aujourd'hui, justement parce que dans les rédactions, il y a moins d'argent et qu'un journaliste pigiste, bien sûr, coûte beaucoup moins cher qu'un journaliste qui appartient à une rédaction et auquel il faut payer un salaire.
Vous côtoyez les jeunes journalistes, vous leur enseignez votre art. Est-ce que vous sentez encore, parmi ces jeunes, une vocation d'aller aussi loin que vous êtes allé ou est-ce que votre parcours devient comme inatteignable ?
Ah non, il ne faut pas que ça soit inatteignable du tout. Non, je sens bien sûr chez les jeunes journalistes, et heureusement que je le sens, parce que si je ne le sentais pas, j'arrêterais d'enseigner. Et en fait, je n'enseigne pas véritablement, je partage avec les étudiants qui choisissent mon cours, mon expérience. Justement pour leur montrer qu'elle est possible, et qu'il est possible d'y trouver du plaisir, et il est possible d'en vivre également. Mais c'est une vie spécifique, bien sûr, ça n'est pas une vie standard. Donc bien sûr que je rencontre chez ces jeunes journalistes ici en Suisse, il y a quelques Français qui viennent à la JM, mais ce sont majoritairement des étudiants suisses, une passion, un enthousiasme et je sais parce que ça fait 10 ans que j'enseigne à la JM que certains d'entre eux sont devenus des grands reporters. Pas tous, mais je sais que s'ils sont devenus, c'est suite à mon cours. Et ça, c'est formidable parce que il y a mille et une façons d'être journaliste. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui n'ont pas la même pratique que moi. Il faut des journalistes de desk. Il faut des journalistes qui restent dans leur rédaction et qui travaillent par téléphone ou sur Internet. Il faut une presse féminine, il faut une presse spécialiste sur les voitures, le jardinage. Il n'y a pas que du grand reportage à l'étranger. Mais on ne peut pas dire que ce que je fais, c'est-à-dire m'intéresser au monde dans lequel nous vivons, même si ce monde est dur à regarder, n'est pas faisable. Non, ça on ne peut pas le dire et je ne peux pas le laisser dire.